yourself.
Zim, zim, zim. Zim, 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 zim. J'entends des gens qui pleurent, pas des larmes de sitcom, de victoire, de César, non, rien que de simples larmes de femmes et d'hommes. Le soleil se lève bien plus tard sur les cheminées d'usines et les façades qui baillent. Toujours les mêmes trains, toujours les mêmes rails. Le boulevard s'illumine et la ville lumière terminer sa nuit en orgie pendant que dans ma cité une femme achève sa dernière prière. Pas chanter. Qu'est-ce qu'ils ont fait les architectes de nos cités? Entendent-ils la détresse de tous les jours? Y'a pas de lampion qui brille sur les nuits de nos tours. À coup sûr, les coups de peinture n'effacent pas les fissures. Écoute la chanson qu'elle nous murmure, toujours la même, plaintif poème, douloureux requiem. Pourtant y'en a qui dansent dans la haute société. Ils n'aiment pas mes paroles et ma musique ne les fait pas vibrer. Ce soir les lumières de Paris vont s'éclairer, alors qu'assez fort des gens se perdent dans l'obscurité.
Bienvenue sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est émission Zéro Hebdo. Et Zéro Hebdo, c'est les bras cassés de l'info qui vont pas tarder à arriver. Ils sont pas très loin, je pense, mais voilà. Donc, pendant une heure, on va un petit peu parler de ce qu'on a trouvé les uns et les autres sur les forums, sur les médias libres et alternatifs. Salut aussi toutes les personnes qui nous écoutent peut-être ce jeudi matin, donc à partir de 7h, donc de 7h à 8h. On attend que nos amis se mettent en place. On va commencer par les fondamentaux. Donc, déjà, l'adresse de la radio, donc c'est Fréquence Paris Pluriel, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, émission 0 hebdo. Voilà, tout le monde se met en place. On va y arriver. Le numéro de téléphone pour le direct de ce mardi, c'est le 01 40 05 06 10. 01 40 05 06 10. L'émission, je pense, peut être écoutée sur radioindimedia.org, quelque chose comme ça, peut-être. Voilà, je pense que ça doit être quelque chose comme ça.
Un truc dans le genre,
voilà. Donc voilà, avant que qu'on entre dans le vif du sujet, on va lancer un petit son qui a été pris lors du forum social antifasciste de ce 7 avril. Et donc c'était une restitution d'un des ateliers qu'il y avait eu. Et là c'était autour du collectif Visa, donc qui est le vigilance initiative syndicale antifasciste. Et donc voilà, ça vous donnait un petit peu une idée un peu de ce qui peut se mettre en place pour contrer les arguments de l'extrême droite.
L'offensive sociale du Front National. Il y a donc plusieurs intervenants qui ont parlé donc de Visa, Vigilance et Initiative syndicale antifasciste, Solidaire et des camarades de sub-BTP de la CNT. On a tout d'abord dressé un peu le bilan de l'opération de dédiabolisation du Front National, qui est dans une optique de prise du pouvoir et qui, dans cette stratégie opportuniste, donc a décidé d'adapter son discours et d'adapter notamment son programme pseudo-social et économique afin de fidéliser et d'élargir son audience, notamment auprès de l'électorat populaire, qui n'est pas son électorat premier, mais voilà, qui rencontre effectivement une certaine perméabilité. D'ailleurs, le débat a porté aussi sur le fait qu'on stigmatise les médias et les politiques stigmatisent le vote ouvrier du Front National et qu'il faut le ramener aussi dans ses justes proportions. Hein, c'est-à-dire que il y a d'abord l'abstention qui est quand même énorme au sein de l'électorat ouvrier et que le vote pour le Front National ne concerne quand même qu'une minorité du vote ouvrier et des employés. C'est d'abord attaché dans une première partie à décrypter le programme économique et social du Front National tel qu'il a été lancé à l'ouverture de la campagne présidentielle par Marine Le Pen, donc qui comporte comme principaux points le retour à un État fort, un nouvel ordre économique et social, je cite, l'emploi priorité nationale, une industrie française prospère, tourner vers également les PME et les PMI, les patrons des PME et PMI, commerçants, artisans, qui sont le fonds de commerce traditionnel du Front. Et donc un discours nationaliste et protectionniste qui est principalement désigne deux ennemis. Premier, donc une stigmatisation des tricheurs, des fraudeurs, hein, chose qui n'est pas non plus une nouveauté puisque Nicolas Sarkozy et le gouvernement UMP également stigmatise donc ceux qui causent la défaite de la France. Donc un renforcement effectivement du contrôle social hein, qui est prôné par le Front National. Et puis deuxième chose hein, qui constitue le clé de voûte du Front National, la préférence nationale, qui a été rebaptisée récemment, lissée un petit peu en priorité nationale, et qui n'est autre en fait qu'un programme de ségrégation sociale renforcée, puisque de fait, ce qu'ils appellent donc les emplois priorité à l'emploi, priorité dans le logement, priorité aux aides sociales, c'est d'abord enfin une réalité aussi, c'est-à-dire que les étrangers sont déjà de fait, de par les lois en France, profondément inégales. Donc une vraie logique d'exclusion qui se met en place, et de stigmatisation effectivement des étrangers. On a d'abord eu cette affiche à 1 million de chômeurs, et maintenant c'est donc 3 millions de chômeurs, ce sont 3 millions d'immigrés de trop. Donc les slogans et les affiches du Front National, effectivement, choquent. Et puis également s'approprier, à l'époque, c'est Georges Marchais, je crois dans les années 80, qui disait « produisons français ». Et le Front National donc a rajouté, évidemment, avec des Français. Voilà, donc une tentative, effectivement, de récupération et de slogan choc pour remettre la France en état. Donc une adaptation également de son discours, hein, c'est-à-dire qu'auparavant, il tapait principalement sur l'État. Et on le voit, donc ils ont adapté également leur langage. Retour à un État fort. Marine Le Pen également a fait une lettre aux fonctionnaires, voilà, en disant pendant des années, on a peut-être un peu trop tapé sur les fonctionnaires, mais maintenant il faut geler la RGPP, etc., etc. Enfin, voilà, une opération séduction, donc pas seulement pour les ouvriers, mais également au niveau des employés et de la fonction publique. On a d'ailleurs retracé assez brièvement l'historique des offensives, puisqu'il y en a plusieurs offensives sociales du Front National, et qui sont produites. L'une, il faut rappeler, en 1996, après les grandes grèves de novembre-décembre 1995, où Bruno Maigret saluait les travailleurs français. Et donc, en 1996, il y a eu la création de syndicats estampillés Front National, donc qui ont été combattus par les autres organisations syndicales devant la justice. C'est d'ailleurs l'époque où l'ancêtre de Visa, donc ISA, Information Syndicale Antifasciste, s'était créé. Prendre la mesure du problème et au sein des structures syndicales, mener le débat en interne dans nos syndicats et construire une riposte syndicale antifasciste large. Deuxième phase offensive sociale du Front, donc après la grande lutte des retraites en octobre 2010, et on l'a vu à l'occasion des cantonales 2011, sur les listes du Front National, donc on a vu des candidats du Front qui étaient par ailleurs syndiqués. Donc il y a une affaire qui a fait grand bruit, hein, Fabien Engelmann dans l'Est de la France, donc qui était militant CGT. Alors la Confédération CGT a également pris la mesure du problème et voilà, a réglé à fois le problème en interne et de manière décidé de médiatiser aussi l'affaire. Solidaire, on a également été confronté au même problème à Sud Collectivité Territoriale à Toulouse, où il y avait un adhérent qui s'est porté sur les listes du Front National. Donc voilà. Ce qui a permis aussi une riposte relativement unitaire au niveau des organisations syndicales, à travers un communiqué de presse. La majorité des organisations syndicales ont pris la mesure du problème et ont soit produit effectivement des argumentaires au sein de la structure, ou Visa, qui rassemble un éventail de syndicalistes également, donc a fait plusieurs brochures diffusées à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires pour déconstruire le discours du Front et armer idéologiquement les militants syndicalistes pour porter le débat au sein des structures. Troisième grand axe, hein, à la fois dans les débats sur cet atelier, c'est comment combattre concrètement le Front National au quotidien. La réponse, évidemment, c'était que les syndicats, l'organisation des travailleurs et des travailleuses étaient, et surtout l'organisation de lutte, on a pris donc l'exemple de la lutte des travailleurs sans papier, constituait à notre sens le meilleur rempart contre le discours du Front National et contre la perméabilité que peut rencontrer parfois son discours. Donc comment le combattre ? Combattre à la fois avec des pratiques de solidarité effective entre travailleurs français et travailleurs étrangers. Combattre également l'isolement, parce que c'est vrai qu'il y a certains secteurs qui sont des déserts syndicaux. Donc voilà, il faut que les syndicalistes prennent la mesure aussi du problème et réinvestissent certains terrains. Donc on a eu l'exemple du BTP. Comment concrètement effectivement s'implanter, organiser les luttes et lutter ensemble dans un rapport de lutte de classe, hein, faut pas avoir peur des mots, c'est réapproprier également une émancipation des travailleuses et des travailleurs, voir effectivement ce qui peut nous rassembler, syndiquer la sous-traitance, lutter contre tous les appareils que le patronat organise pour diviser les travailleurs, promouvoir donc par les luttes le meilleur rempart contre le Front National.
La vie, la santé et l'amour sont précaires. Pourquoi le travail échapperait-il à cette loi ?
C'était Laurence Parisot, présidente du MEDEF.
On te prend, on t'essore, on te jette, on te vire.
On te prend, on t'essore, on te jette, on te vire.
Tu travailles pour des miettes, en plus il faut sourire.
Tu travailles pour des miettes, en plus il faut sourire. Et ils veulent que cela soit pire. Que l'on reste là sans rien dire. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça, basta, y'a.
La sécu, la retraite, bientôt des souvenirs.
La sécu, la retraite, bientôt des souvenirs.
Les loyers, c'est la fête, mais pas pour ta tirelire.
Les loyers, c'est la fête, mais pas pour ta tirelire. Et ils veulent que cela soit pire. Que l'on reste là sans rien dire. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça, basta, y'a. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça.
Les matraques disent de bien se tenir.
Les télés, les matraques disent de bien se tenir.
C'est la peur qui remplace les rêves d'avenir.
C'est la peur qui remplace les rêves d'avenir. Et ils veulent que cela soit pire. Que l'on reste là sans rien dire. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça, basta, y'a. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça.
On te filme, on surveille tes soupirs.
On te fiche, on te filme, on surveille tes soupirs.
Orwell dans sa tombe n'a pas fini de rire.
Orwell dans sa tombe n'a pas fini de rire. Et ils veulent que cela soit pire. Que l'on reste là sans rien dire. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça, basta, y'a. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça.
Sans papier, sans logement, juste bon à offrir.
Sans papier, sans logement, juste bon à offrir.
Tes deux bras, ta sueur, pour nos villes à construire.
Tes deux bras, ta sueur, pour nos villes à construire. Et ils veulent que cela soit pire. Que l'on reste là sans rien dire. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça, basta, y'a. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça.
Si tu veux réussir,
mort ton voisin. Si tu veux réussir,
c'est la rage du gagnant. Il faut vaincre ou mourir.
C'est la rage du gagnant. Il faut vaincre ou mourir. Et ils veulent que cela soit pire. Que l'on reste là sans rien dire. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça, basta, y'a. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça, basta, y'a. Y'a pas ça, y'a pas ça.
Eh bien, de retour dans l'émission Zéro Hebdo sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Donc ce soir, je l'avais omis avant de démarrer l'émission, on a des invités donc, que tu vas nous présenter.
Bah, on a comme invité en particulier, toi si tu veux nous parler, en fait on a un invité et son ami, donc ils sont là, donc tu peux réagir quand tu veux aussi sur les sujets si ça t'inspire. Hein. Donc on a comme invité donc Joseph Koba qui anime le blog Contre Subversion sur WordPress, donc c'est contresubversion.wordpress.com, qui a comme sujet d'étude en fait l'étude de la propagande, contre-propagande, enfin tu vas nous expliquer, en faveur notamment des dictatures du Moyen-Orient. Alors ça rejoint les thématiques qu'on aborde régulièrement ici sur les réseaux, notamment les réseaux conspirationnistes liés bon, avec des noms qu'on a déjà cités, qu'on va peut-être pas reciter à chaque fois. Je pense qu'on va avoir l'occasion de toute façon. Et donc autant nous, on s'intéresse à ça. En fait, on est venu en général, nous ici à la radio, à s'intéresser à ça via l'antifascisme. En fait, on part de l'antifascisme pour ensuite découvrir que les mêmes qu'on croise et tout, enfin avec des accointances bizarroïdes, en fait, font de l'activisme sur l'international et les problématiques internationales. Toi, en fait, si j'ai bien compris, c'est l'inverse, en fait. Tu es parti des problématiques internationales pour en arriver un peu aux mêmes conclusions que nous, en fait.
Voilà, c'est ça. En fait, moi, je suis pas très politisé à la base, mais j'ai constaté, enfin, j'étais un internaute. Je me renseignais pas mal sur YouTube à l'époque, dans les années 2008-2009. YouTube était un réseau où beaucoup de propagande circulait, surtout à l'époque de la guerre de Géorgie. Puis il y a eu ensuite les élections iraniennes, et je me suis rendu compte de l'influence en fait de cette propagande issue d'un axe que j'identifiais au départ russe, puis ensuite iranien ou pro-iranien, puis pro-Hezbollah et pro-Bachar el-Assad, de l'influence de la propagande de cet axe sur l'opinion française. Voilà. Et cette influence en fait se remarque parce que les Français disent ou leur interprétation de certains événements.
Quand tu dis les Français, c'est-à-dire le peuple ou les médias ?
Je parle plutôt de ceux qui parlent français en général, c'est-à-dire l'ensemble francophone, puisque les propagandistes en Belgique sont très très actifs.
Oui, on les connaît.
Les Suisses, voilà, les Québécois aussi.
Oui, au Québec, mais c'est une autre forme de conspirationnisme au Québec. Il est plus un conspirationnisme délirant, classique qu'on connaît, américain, plus américanisé. Alors que celui qui est sur notre continent, comme celui qu'on peut retrouver en Afrique, il est en Afrique du Nord surtout. Puisque là où on parle français, hein, évidemment, c'est un conspirationnisme très politisé qui tourne autour des informations essentiellement, enfin des provocations qui sont lancées sur la question du conflit israélo-palestinien en général. Au départ, ça a commencé avec les mythes révisionnistes du 11 septembre pour attirer du monde. Et ensuite, ça a carrément viré à la propagande de guerre et à la désinformation pure et simple, quoi.
Mais il peut y avoir quand même un paradoxe, puisque avec tous ces outils quand même d'information et tout ça, comment on a pu en arriver jusqu'à là.
En plus, c'est d'autant plus paradoxal qu'eux ne cessent de se présenter comme étant des opprimés, censurés en permanence et pas entendus et n'ayant pas voix au chapitre dans les médias.
Voilà, justement. En fait, ils attirent le chaland avec la fibre sensible, quoi. Ils exposent les événements sous un certain angle, où il y a beaucoup de vérité, évidemment, quelques mensonges, des fois beaucoup de mensonges, mais c'est mentir en fait. On peut mentir en alignant une série de vérités sans que ce soit les vérités les plus importantes ou au cœur de la question. Je me souviens d'une citation de Jean-François Revel, je crois que qui était éditorialiste dans les années 80, qui disait que la désinformation, en parlant de la désinformation des soviets sur l'opinion occidentale, mais bon, que d'autres ont utilisé ces méthodes-là, la désinformation consiste à faire dire par l'ennemi ce qu'on souhaite lui faire dire. C'est-à-dire que le but, par exemple, typiquement dans la guerre de Libye, le but c'était de lancer des rumeurs sur Twitter et de faire en sorte que ces rumeurs se répandent, soient reprises par la presse, par les grandes agences de presse, et qu'ensuite, des officiers du CNT libyen qui étaient sur le terrain avaient vent de la question et disaient c'est confirmé parce qu'ils l'ont vu dans une grande agence de presse. Du coup, un provocateur lancé sur Twitter, c'est confirmé par un officier, etc. Et ainsi de suite. Et du coup, la presse pouvait reprendre ensuite cette rumeur-là. Donc il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs qui sont stoppées sur les réseaux avant qu'elles atteignent la presse. Il y en a énormément. Mais il y en a aussi qui parviennent à gagner la presse de temps en temps. Alors la presse ensuite dément, elle fait un démenti. Mais au-delà des rumeurs et de cette désinformation brute, il y a une désinformation plus sophistiquée qui consiste à diffuser des fausses idées, des fausses interprétations, notamment par des phrases type. Je ne les ai pas forcément en tête là immédiatement, mais typiquement, alors, ce qu'on peut voir en France, c'est dire que l'OTAN bombardait les populations civiles en Libye. Alors ça, c'est quelque chose que répètent beaucoup les désinformateurs qui sont payés par les dictateurs, invités, hein, comme Michel Colomb qui a été invité à Tripoli par Kadhafi.
Et énormément d'autres. Voilà.
Enfin, on ne va pas commencer à les citer, ils sont des jeunes.
Ouais.
Voilà. Aussi bien en Iran que déjà invités par le Hezbollah au Liban en 2006. Ouais. Et puis ils sont allés ensuite à la rencontre de la dictature syrienne.
Ils sont régulièrement invités dans les festivals iraniens.
Voilà, par Frédéric Chatillon, conseiller de Marine Le Pen d'ailleurs, ancien leader du GUD. Voilà.
Et donc c'est quand même un peu surprenant ce que tu dis, parce que sur les bombardements, il y a eu des frappes, parce qu'on parle des frappes, mais Est-ce qu'on n'est pas aussi confronté sur ces questions-là à deux propagandes, d'un côté l'axe que tu décris et de l'autre un axe qui serait pour le coup
en théorie oui,
mais
en théorie oui, en théorie oui, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait on a affaire à un peuple qui a un besoin de reconnaissance et un besoin d'aide immédiate. Et ce besoin de reconnaissance, il le matérialise par des témoignages. Alors certains vont dire qu'un témoignage c'est toujours une propagande. Effectivement, un témoignage c'est une propagande. Mais je veux dire, on ne peut pas apporter mieux qu'un témoignage vidéo. Voilà. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais les bombardements. Pour moi, qui ai eu les vidéos tous les jours sous les yeux des victimes, voire des fuites de l'armée, que ce soit en Syrie ou en Libye, c'était les bombardements de Kadhafi, quoi. Voilà, qui assiégeait les villes. Et c'était pas l'OTAN. L'OTAN était en relation très intime avec les combattants sur le terrain, et c'est les combattants sur le terrain qui donnaient les cibles à l'OTAN. Et ces cibles-là, elles étaient évidemment pas civiles, puisque les combattants avaient besoin de reconnaissance et de libérer les villes qui étaient assiégées et bombardées depuis des mois. Donc ils n'allaient pas dire à l'OTAN bombarder les civils. Ils leur disaient là, il y a un centre de télécommunication, là, il y a un bunker. Là, il y a un lance-missile sur tel rond-point. Là, il y a une colonne de chars qui va se diriger. Voilà, c'est probablement la brigade Camis, du fils de Kadhafi, des choses comme ça.
Est-ce qu'il est arrivé qu'il y ait, malgré tout, parce que du coup, pour les personnes non averties, c'est très difficile de savoir à quelle source se fier. Est-ce qu'il est arrivé, par exemple, en Libye, qu'il y ait quand même ce qu'on appelle couramment dans les médias des bavures, par exemple ? Et comment est-ce qu'on fait, du coup, pour distinguer le vrai du faux dans ces affaires-là,
Parce qu'en fait, l'OTAN ne nie pas la bavure qu'il y a eu au début du mois d'avril sur une colonne de chars du côté de... entre Brega et Benghazi, il y avait le front. Et il y a une colonne de chars qui a été touchée par l'OTAN au tout début de l'engagement de l'OTAN, parce qu'au début, il y avait une coalition franco-britannique. Et donc, cette colonne de chars, il y avait une méprise, en fait. C'était clairement un problème de communication entre les hommes sur le terrain et l'état-major de l'OTAN. Ensuite, cette communication s'est mise en place. Les combattants, les chefs des réseaux de résistance, on connaît un qui s'appelle Salem Al-Madoun, ont eu entre les mains des tourayas qui leur permettent d'émettre des messages sans qu'on puisse capter le contenu de ces messages. Donc il y avait une communication très intime entre les combattants, les gens sur les réseaux qui diffusaient l'information, toutes sortes d'informations, que ce soit des informations sur le front, la ligne de front, sur les combats, un tel qui poste une vidéo sur YouTube, que ce soit un article de journal qui soit produit, surtout les informations liées à la diplomatie, parce que les Libyens étaient très très attentifs aux décisions diplomatiques, aux réunions qui pouvaient se passer, soit par exemple au Sénat en France ou au Congrès américain, pour voter la suite des aides qu'on leur accorderait ou pas. Donc la désinformation, pour venir au sujet, ça consiste, comme disait Jean-François Revel, à faire dire par l'ennemi ce que l'on souhaite lui faire dire. Donc l'ennemi, si l'ennemi c'est le gouvernement français et ses positions diplomatiques, on va faire dire au peuple français ce que Kadhafi veut lui faire dire, en fait. Voilà.
Et pourquoi ça marche aussi bien ? Parce qu'en même temps, les personnes qui diffusent ces rumeurs et tout, ce sont pas des gens... très très crédible, c'est-à-dire qu'on n'a pas Michel Collomb tous les 4 matins dans les médias, quelqu'un comme Ginette Scandrani qui a organisé des manifestations avait été exclu des verts il y a une dizaine d'années pour négationnisme. C'est pas vraiment des gens qui effectivement quand ils disent ils sont censurés, mais de fait c'est pas des gens qui ont un accès ouvert aux médias, notamment en France ils ont un accès ouvert aux médias russes, iraniens, etc., très courant, mais en France c'est pas des gens perçus comme crédibles, c'est perçu plutôt comme des charlots, même s'il arrivait que Messant, Collomb aille chez Tadi ou chez Ardisson.
Tout à fait. Les gens considèrent comme des charlots.
Mais du coup, comment ça se fait que des charlots puissent...
Parce qu'en fait, le grand public ne sait pas que l'origine du message qu'il adopte est issue de ces provocateurs que tu cites.
Mais y compris pourquoi les médias, du coup, reprennent ces messages-là.
Alors non, les médias ne reprennent pas ces messages-là. C'est arrivé à quelques occasions.
Ouais.
Ça arrive de moins en moins parce qu'il a d'abord fallu les informer sur la question du révisionnisme du 11 septembre. Ça a pris un certain temps. Maintenant, c'est terminé, cette affaire-là. Ensuite, il y a eu quelques désinformateurs, par exemple pro-Bachar, qui ont été dénoncés par les opposants syriens sur les réseaux sociaux, qui ont été invités sur, comme experts ou comme pour témoigner sur des émissions de télé. Bon, c'est arrivé, notamment des curés. Bon.
Oui, la sœur Maria Magnès de
Lacroix. Michel Collomb... un provocateur vrai, lui là on est vraiment dans la frange dure de ces provocateurs, de ces désinformateurs. Lui était très invité, par exemple, chez Frédéric Tallei. Il a fait plusieurs, plusieurs invitations de la part de Tallei, qui est une émission très écoutée. Alors, Michel Collomb est l'auteur d'une vie, par exemple, pour vous expliquer à quel point une intervention de Michel Collomb peut être influente dans le monde francophone. Il suffit que, Michel Collomb, il a été invité chez Frédéric Tadei vers le 21 mars, quelques jours après le vote de la résolution de l'ONU, la résolution 1973, qui était le 18 mars, première intervention militaire contre les chars kadhafistes le 19. Michel Collomb arrive chez Tadei le 21 mars. Et il fait une intervention, un monologue de un quart d'heure, comme toujours, où il raconte n'importe quoi, il raconte les propagandes kadhafistes. Ensuite, dès le lendemain, cette séquence-là est publiée sur Internet. Cette vidéo fait le tour du web, et sous le titre « Le bon arabe et le mauvais arabe ». Donc en fait, ils arrivent à charmer les gens,
ça, je m'en souviens,
avec des appâts sentimentaux, en fait. Là, il ne s'agit pas de charmer uniquement ceux qui s'identifient en tant qu'arabes, il s'agit de aussi titiller la fibre raciste antiraciste française. Voilà, et ce qui explique tous ces enchaînements de manipulations de subtiles et habiles font qu'on peut trouver sur Internet la vidéo d'expatriés congolais en France qui manifestent pour Kadhafi et pour voter Marine Le Pen.
Donc en fait, la source principale de ce confusionnisme, c'est finalement Internet. Et pourquoi sur Internet, les gens ne les perçoivent pas aussi plus comme des charlots, puisque je pense qu'il y a des gens qui regardent les vidéos de Michel Collomb tout en se disant, ça arrive. Hein. Très clair, mais il lui arrive de dire des choses intéressantes. Et ça,
on m'a conseillé même
tout un tas de gens, en fait.
Oui.
On m'a carrément conseillé même de m'intéresser à Michel Collomb quand on m'entendait parler sur ce que je voyais, ce que je transmettais comme témoignage issu des Libyens, par exemple. On me disait, tu devrais t'intéresser à Michel Collomb. Alors forcément, quand on entend des choses pareilles, ça énerve. Alors pourquoi les gens tombent dans le panneau?
D'autant que c'est assez médiocre même comme niveau d'écriture.
Je dirais pas que les gens tombent dans le panneau. En fait, on tombe tous dans le panneau. Moi-même, je tombais dans le panneau. Mais je pense qu'on tombe plus dans le panneau à partir du moment où on est choqué quand ces gens-là traitent un sujet qu'on connaît. Voilà. Et là, on se rend compte immédiatement de la supercherie.
Tout à l'heure, tu parlais des réseaux sociaux et tu disais, ça c'est quelque chose moi qui m'intéresse, tu disais les journalistes passent par les réseaux sociaux et pour avoir leurs informations, mais en général, ils ont quand même des reporters sur place.
Les journalistes, c'est vraiment pas les diffuseurs de désinformation. Hein. Il faut être clair dessus.
C'est pas ça que je veux dire. Je me suis peut-être mal comprendre. Dans le sens, si tu veux, où comment se fait-il qu'ils doivent passer par des réseaux sociaux alors qu'eux, ils ont théoriquement des journalistes sur place.
Ah oui, comment ça se fait?
Voilà.
Parce que quand on a un conflit sur le terrain, c'est forcément Twitter qui témoigne le plus rapidement des événements. Et il y a une masse aussi d'événements à diffuser. Et Twitter le permet très facilement.
Et ça permet le recoupement aussi, parce que souvent on envoie les envoyés spéciaux, y compris c'est des gens qui peuvent connaître. En général, on voit quand même des gens qui parlent un peu la langue ou qui connaissent la région, qui ont déjà été, mais ils ne connaissent pas forcément le détail de la situation et de sa complexité.
Et les envoyés spéciaux sont eux-mêmes sur Twitter, sur le terrain.
Oui.
Voilà.
Et ça
brouille peut-être un petit peu, du coup, cette histoire de réseaux sociaux, pour ça, ça brouille peut-être un petit peu la compréhension plus globale d'une situation, peut-être.
Complètement. Et alors, il y a cet aspect-là, et il y a l'aspect de l'intox des médias. Hein. Alors ça, sur une centaine de tentatives, il y en aura peut-être une qui marchera. Par exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas citer des exemples parce que ça va être complexe, mais il y a il y a eu un paquet d'annonces qui sont passées dans la grande presse professionnelle sur l'arrestation d'un fils de Kadhafi, quelquefois confirmé par le CNT, mais un coup c'était le CNT qui était piégé ou un officier du CNT sur le terrain, un coup c'était une agence de presse et du coup le CNT confirmé. Enfin voilà, c'est des choses qui ont été beaucoup utilisées pendant cette guerre. Et alors qu'actuellement, dans la guerre de Syrie, puisque maintenant on peut parler de guerre depuis 2012, depuis la formation de l'ASL, il y a beaucoup moins de rumeurs qui circulent. Par contre, la désinformation, elle est très forte parce qu'elle s'est construite sur les conflits précédents. Voilà. Donc, on peut trouver des intellectuels anti-Bachar el-Assad choqués par la répression syrienne du gouvernement, si on peut appeler ça comme ça, en Syrie. mais qui vont répéter aussi en parallèle de la désinformation, issue de la désinformation Kadhafi, alors que Kadhafi est mort, quoi, je veux dire. Mais il ne le sait pas. Il ne sait pas que ça vient des provocateurs antisionistes.
Ouais, c'est marrant, parce que moi, ça m'est arrivé là, sur justement la manif des Syriens samedi. Un Syrien de l'opposition qui me disait, j'ai discuté, il dit, ouais, pourquoi vous vous intéressez à ça? Je lui parle de Michel Collomb, il me dit, oui, c'est complexe, Michel Collomb. Je dis, ah non, c'est pas complexe. Enfin,
non, clairement, c'est.
Et c'était un opposant qui me disait ça, donc c'est assez bizarre des fois d'être confronté à ce genre de situation.
C'est parce que je pense qu'il est dans un contexte francophone, et du coup, il est sous influence aussi, comme nous tous, qui parlons français, et des débats de société, des débats surtout sur Internet, puisque Internet,
c'est vrai qu'on a eu beaucoup de témoignages les uns et les autres de cas tunisiens qui, pour certains, ont participé à la révolution, puis qui aujourd'hui s'en mordaient les doigts sous l'influence de ces discours-là, en disant que peut-être finalement ils avaient été manipulés par la CIA ou par je ne sais trop quelle
entité,
et qui du coup en arrivait à se démobiliser en fait, sur voir même à soutenir Bachar Assad, puisque on a un jeune Syrien qui nous a témoigné de ça, d'avoir des contacts tunisiens qui alors qu'il a combattu Ben Ali.
Alors le réseau conspirationniste des propagandistes franco-belges est arrivé assez en force en Tunisie après le départ de Ben Ali, l'influence d'Alain Soral. On a même vu
les
Tunisiens partager Pierre Hillard. Alors exemple, moi j'administrais une page Facebook anti-Kadhafi depuis la fin du mois de février. On avait un peu plus de 800 membres et au moment du vote de la résolution de l'ONU. Une semaine après le vote de la résolution de l'ONU, on avait perdu 45% de nos membres. Et c'était pendant la période où la vidéo « Le bon arabe et le mauvais arabe » de Michel Collomb circulait partout, pour dire à quel point elle circulait sur un profil tunisien révolutionnaire. Cette vidéo-là comptait, j'avais vu une seule fois, comptait 495 likes.
Et comment,
3 jours après sa diffusion sur France, sur la télévision française.
Et comment se fait-il que les gens qui ont pu combattre Ben Ali ne fassent pas le parallèle et ne se sentent pas naturellement poussés à soutenir des gens qui eux-mêmes dans leur pays combattent aussi des dictateurs, que ce soit Kadhafi, Bachar al-Assad ou d'autres personnages
Par le discours habituel des désinformateurs.
Y compris là, ce qui est rigolo, c'est le Bahreïn où pour le coup nos désinformateurs soutiennent l'insurrection.
Les désinformateurs en fait jouent sur plusieurs tableaux. Il joue aussi sur le tableau de ce qu'on pouvait appeler autrefois une certaine démoralisation, c'est-à-dire qu'on perd la mesure des faits, quand on les compare. Et on entendra souvent, un dictateur c'est un dictateur, Ben Ali, Bachar al-Assad c'est la même chose. En fait, pas du tout. Ça peut être la même chose sur certains registres qu'on peut qualifier de mafieux, peut-être, je ne suis pas très au courant non plus, mais il est clair que Ben Ali n'est pas impliqué dans une entreprise de propagande internationale depuis, maintenant on peut parler de décennies pour le régime syrien. Le régime russe, qui héritait un peu des soviétiques, et la dictature islamique d'Iran et ses alliés. Donc Ben Ali n'est pas du tout comparable à Bachar el-Assad sur ce plan-là. Déjà, je ne pense pas que Ben Ali ait été impliqué dans des affaires de terrorisme ou d'assassinat politique, par exemple.
Aussi en Tunisie, probablement.
Quand même. En Tunisie,
c'est sûr. Si ça, c'est voilà. Ça, c'est sûr. En Tunisie,
en tout cas,
quand même, il a. Oui,
il y avait
quand
des
même...
enlèvements, mais oui, mais ça
pas. Il a pas, si tu veux, il n'est pas impliqué dans du terrorisme
international.
En plus, il a
l'assassinat de Rafik Hariri au Liban, qui était le premier ministre. C'est quand même quelque chose d'assez violent. On accuse la Syrie, le Hezbollah, bon, il n'y a pas encore.
C'était plus interne à son pays, quoi. Mmh. Plus,
c'est pas la même mesure. C'est
enfin,
pas la même
ça
mesure.
N'excuse pas.
Voilà. Non, il ne s'agit pas d'excuser. Il s'agit juste de dire que les désinformateurs profitent en fait d'un levier qui est celui de l'absence de mesure. En fait, ils posent des postulats en disant que tout se vaut. Et par exemple, ce que j'ai entendu à un stand de Jacques Cheminade, c'est pour défendre Gbagbo, le mec me dit « Oui, mais Ouattara, c'est pas un saint. Ben » Oui, c'est sûr que Ouattara, c'est pas un saint. Mais en 1940, Churchill n'était pas un saint non plus.
Voilà. Oui.
C'est toujours cette question de mesure, quoi. Il était aussi très critiqué par les gens qui se sont engagés du côté des Anglais. Voilà. Il a été sanctionné aussi au niveau de la politique ensuite. Bon, c'est toujours cette question de mesure qui est complètement absente. Et du coup, on en arrive à des dérives qui sont complètement aberrantes. Et des gens qui ne connaissent qu'une portion de la vérité. C'est-à-dire ils vont connaître les crimes de l'impérialisme, du colonialisme, tout un tas de choses. Mais cet impérialisme sera toujours à sens unique. Voilà. Oui, là. Bon, on connaît bien la question.
Ouais, ouais.
La Chine qui n'est pas impérialiste. La Chine,
voire colonialiste même. Hein,
oui, 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 voilà.
Mais tous les pays, même des démocraties, hein, à leur manière, des pays comme... Moi, j'avais fait un voyage en Indonésie, c'est un pays qui doit gérer 15 000 îles, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Enfin, voilà, ils ont certaines... Ils doivent instaurer une autorité administrative au bout du pays, enfin, ça se fait, ça se fait avec des hommes en kaki, quoi, souvent. Et, enfin, peut-être moins maintenant, mais à une époque, ça s'est fait comme ça.
Oui, oui. Bon.
Là, on n'a pas affaire au même impérialisme concernant les réseaux de dictatures qui sont dans une entreprise de désinformation internationale. D'ailleurs, quand on va sur leur site, réseauvoltairemondialisation.ca et d'autres, on verra que souvent, on peut avoir accès à certains textes en différentes langues, jusqu'à 18 langues.
Ouais. Et tu disais que dans le monde anglo-saxon, le conspirationnisme nous paraît quand même très présent via des gens comme Alex Jones ou même David Icke, qui est lui complètement délirant parce que c'est lui les reptiliens. Mais en même temps, il a aussi des vidéos moins délirantes sur les Illuminati. Enfin, comme il y a une gradation, il joue sur un peu tous les tableaux, ce qui permet d'aller du plus grave pour satisfaire un public large. En fait, on va du plus grave au moins grave ou réciproquement. Mais tu disais que du coup, alors que ces pays-là sont, enfin, il y a tout un tas de trucs qui viennent de là, même le 11 septembre et tout. Alors, y compris d'ailleurs, ils n'aiment pas le grand Satan, comme ils disent, américain, mais ils n'arrêtent pas de faire des références à la culture populaire américaine, que ce soit via Matrix, que ce soit en permanence ça. Et tu disais malgré tout que finalement, tu constatais, toi, que sur les blogs anglo-saxons, même d'opposants syriens et tout, finalement, le discours propagandiste russe irano-bachariste passait moins, en fait, quelque part paradoxalement, c'est-à-dire qu'on aurait tendance à se poser la question.
Alors,
en fait,
je ne saurais pas expliquer pourquoi. En tout cas, c'est une constatation qui est, c'est une constatation que je vois par rapport à mes contacts. Hein. J'ai des contacts d'un peu partout, à force. D'ailleurs, quand on a affaire à la question syrienne et libyenne, forcément, on a affaire à des gens qui parlent anglais aussi. Et ces gens-là, par exemple, ne diffusent pas. George Galloway, il se méfie de Russia Today. J'ai vu même une jeune Libyenne qui a fait une vidéo contre Russia Today. Elle doit avoir 18 ans, quoi. Alors que chez nous, on voit des gens d'un certain âge qui ont une éducation, qui diffusent cette chaîne de désinformation du KGB. Enfin, du
Kremlin. Du
FSB, ouais,
oui.
Voilà. C'est lapsus.
Oui, non, mais c'est le FSB maintenant, mais c'est toujours le même fonctionnement, ouais.
Mais est-ce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, est-ce que toute ces technologies, parce qu'il y a, on va dire, il y a 20 ans, tous ces gens-là ne pouvaient pas...
Si, ils le faisaient déjà.
Ils le faisaient déjà.
Mais ils le faisaient avec ce qu'ils appelaient des lettres confidentielles.
C'est-à-dire
Il y a un bon exemple dans le livre qui s'appelle François Duprat, l'homme qui a inventé le Front National. Ouais. L'homme qui a inventé le Front National, qui est paru récemment, où il explique que François Duprat ou d'autres activistes provocateurs, en fait, politiques, qui cherchait à rassembler les différents groupuscules d'extrême droite ou d'extrême gauche quelquefois, utilisaient des lettres confidentielles, c'est-à-dire qu'ils avaient une liste d'adresses avec des notables dans les régions, des préfets, des députés, et ça pouvait se monter, c'était des listes qui pouvaient se monter à 2000 noms.
C'est ce que continue à faire un peu Emmanuel Ratier dans son genre, par exemple. Emmanuel Ratier, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça demeure un peu ça à l'extrême droite.
Ouais.
Ratier, c'est tout à fait ça. Ouais. Je n'arrive plus à trouver à me rappeler du nom de sa lettre, mais ça, c'est notamment sur le dîner du siècle, sur tout un tas de trucs.
Beaucoup utilisent cette technique.
Très renseigné d'ailleurs, mais très renseigné aussi parce qu'il fait partie de ces réseaux-là. Il les dénonce, mais en fait, il a des amitiés et des gens dedans. Donc c'est
ouais, on va dire que Ratier et Boucher, et Christian Boucher aussi.
Il y a Christian Boucher.
Qui sont qui sont vraiment des activistes du net débridés.
Et oui, mais du net, mais aussi de lettres, justement, par exemple, alors maintenant ça passe par mail, autrefois ça passait par la poste, mais de lettres auxquelles il faut s'abonner, tu les reçois en PDF dans ta boîte email, enfin, ça existe encore. Donc il y a Ratier, et je pensais à un autre aussi, je sais plus du coup.
Christian Boucher, oui.
Oui, mais il y a Boucher, mais Boucher, Voxener, c'est pas vraiment une lettre confidentielle, c'est un site internet. Je pensais vraiment à quelqu'un d'autre, là, ça va peut-être me revenir.
Donc, en attendant que ça te revienne, est-ce que justement aujourd'hui, avec la multiplication des canaux d'information sur Internet, est-ce que du coup ça prend plus d'ampleur ou, comme tu disais, on est sur les mêmes...
Alors, ça prend de l'ampleur, ça dépend de la réaction du public par rapport à ces provocations. C'est toujours ça. Après, le public, il a aussi envie de rêver. Il n'est pas forcément censé être au courant des affaires. Je veux dire, c'est normal. Maintenant, il faut aussi apprendre à faire la part des choses. Quand on a envie de rêver, on rêve pas sur les histoires des autres, quoi. Hein, ça se fait pas. Voilà, bon, c'est tout, quoi. Surtout que c'est des histoires quand même fortes. Hein. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qu'on voit actuellement. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas autrefois parce que les gens n'avaient pas les moyens d'enregistrer ces témoignages. Donc, ça peut. C'est juste. Comment on peut évoquer ce que c'est le contenu qu'on peut voir dans ces témoignages-là, qui est juste impossible à expliquer, quoi, à résumer.
Et autrefois, parce qu'on, du coup, on s'est interrompu sur cette histoire de l'aide confidentielle, mais donc c'était envoyé à des notables. Ça devait toucher quand même moins le grand public qu'aujourd'hui à l'heure d'Internet. Mais du coup, est-ce qu'il y a des exemples où ça a marché? Enfin, où on a vu du coup passer dans un grand public déjà à l'époque des trucs qui effectivement émanaient de ces lettres confidentielles qui, pour le coup, sont vraiment confidentielles.
Alors, je sais pour l'avoir lu, mais je ne pourrais pas l'expliquer en détail, mais qu'à l'époque de la guerre froide, il y avait s'infiltrer dans les médias, c'était quelque chose de très pratiqué par les soviétiques, mais je crois aussi par les américains. C'est quelque chose qui est dénoncé par les propagandistes conspirationnistes, qui est vrai, hein, qui n'est pas nouveau et qui n'est pas non plus une invention américaine, contrairement à ce qu'ils disent. Par contre, ce qu'ils oublient de dire, c'est que eux, c'est ce qu'ils pratiquent comme méthode. Les désinformateurs, ou les conspirationnistes, selon comment on les nomme, ou les antisionistes.
Faut le dire. Les antisémites, les antisionistes, antisémites, je ne sais pas, on ne sait plus radicaux, trop comment les appeler. Voilà. Oui, c'est pas un cas assez français, ça aussi, d'ailleurs.
Voilà, donc en fait, il y a une dimension politique derrière des mythes qui peuvent paraître charmants ou intéressants ou qui nous plaisent parce que forcément, ils vont accuser un démon qu'on connaît, qui est les États-Unis, qui est Sarkozy, qui est machin. Voilà. Et voilà comment, au final, le peuple français croit que BHL a fait la guerre en Libye à la place de la population. Mmh.
Comment on peut un petit peu éviter un peu tout cela quand on est un peu, j'allais dire, novice,
oui,
entre guillemets,
ça, ouais.
Parce que là aussi, du coup, parce que peut-être les gens qui nous écoutent disent ouais, moi je vais sur Internet, machin, je vois pas quel est le problème. Comment effectivement on peut se prémunir de
et
ça?
Et comment on fait pour distinguer?
Franchement, je saurais pas donner de conseils à part le fait de ne pas confondre réalité et fiction. Hein, on a le droit de rêver, mais quand on fait de la... Là, en fait, il s'agit de questions de politique internationale, essentiellement au final. C'est-à-dire qu'on peut attirer le public sur des questions locales. Voilà, on va agiter l'épouvantail d'un débat dans le vent sur, scandale Wirth ou des choses comme ça. Et on va attirer le public vers des questions plus larges, quoi, pour que le public, ensuite, tombe sur un article de Thierry Messant qui dit que Sarkozy est un agent de la CIA. Alors, c'est pas parce qu'on déteste le président qu'il faut croire à des choses pareilles, évidemment. Voilà. Donc, comment se prémunir? Je ne saurais pas quoi dire. Hein, je veux dire, c'est
à chacun ton expérience, par exemple, toi...
Mon expérience, en fait, ce que je fais, c'est que quand on m'envoie un site, je vais directement voir les liens que le site propose.
Voilà.
C'est ça, ouais.
Et dès qu'en lien, on voit que le site est très, très concentré sur des questions internationales, voire obsédé par Israël et la Palestine, ça peut être risqué. Après, ça ne veut pas dire que tous ceux qui défendent la Palestine sont moisis, au contraire. D'ailleurs, ils sont très pris à partie par les provocateurs. Mais dès qu'on voit qu'il y a une défense de Kadhafi, de Bachar el-Assad, que Poutine est l'homme de l'année 2012, des choses comme ça...
La Chine, c'est un grand pays.
Voilà.
Non, c'est pas que ce soit pas un grand pays en même temps, mais, même temps, c'est la façon dont on en parle qui est...
C'est ça, voilà, exactement. Disons qu'il faut pas avoir confiance dans les provocateurs qui nous disent que Sarkozy est un vampire, même si ça nous fait marrer. Il faut aller au-delà et se dire, tiens, mais qu'est-ce qu'il dit sur Bachar el-Assad? Et dès qu'on voit qu'il est complaisant avec sur son site, son blog, on sait qu'on a affaire à quelqu'un qui a des mauvaises sources. Ou qui est carrément un provocateur. Parce que tout le monde n'est pas
trop
impliqué
fort.
Au même degré, en fait.
On va faire une petite pause musicale.
Je m'inscris dans ce... Vous avez assez de cette bande de racailles.
Ça suffit.
On va vous en débarrasser.
Merci.
Contre Al-Qaïda. Malheureusement, je m'inscris dans cette démarche commerciale pour aider à l'époque l'État libyen à lutter contre Al-Qaïda. Malheureusement. Je suis bon.
Non, mais il ne suffit pas que n'importe qui écrive n'importe quoi sur n'importe quel organe de presse pour que ce soit plus fiable que la parole d'un ministre de la République.
Thank you.
Je ne permets pas qu'on dise que je mens, je sais la vérité. Je ne permets pas qu'on dise que je mens, je sais la vérité. Je ne permets pas qu'on dise que je mens, je sais la vérité.
Je m'inscris dans cette démarche commerciale pour aider à l'époque les talibiens à lutter contre Al-Qaïda.
Quand vous apercevez que ce n'est pas exactement ce qui a été fait, vous en pensez quoi?
Monsieur Morin, comment est-ce que quelles sont les actions que je pourrais avoir puisque je n'opère pas le produit? D'accord, je ne suis pas derrière les écrans, je ne construis pas les requêtes. Je suis malheureusement, je subis.
Moi, ça va, j'ai un peu sous encore.
Eh bien, de retour dans l'émission.
Les aléas du direct.
Zéro hebdo. On est en train de discuter, voilà, papoter, voilà, donc avec l'invité, donc voilà. C'est quand même à la maison, hein, pareil. Sans micro, mais bon. Donc, dans l'émission, on est de retour dans l'émission Zéro hebdo sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Bah, on va terminer tout doucement avec donc, l'agenda. Donc, quelques rendez-vous pour mettre un pied devant l'autre, comme disait l'autre. On va commencer par le mercredi 25, il y a un rendez-vous. Déjà aujourd'hui, il y avait une manifestation à Washington, donc devant le ministère de la Justice des États-Unis, pour exiger la libération de Mumia Abu-Jamal, puisqu'aujourd'hui, il avait 58 ans. Mais au-delà de lui, on répète bien, et je pense que le collectif là-dessus, et collectif de soutien, et rejoint beaucoup ça, c'est que à travers Mumia Abu-Jamal aussi, c'est la plupart de la condition des prisonniers aux États-Unis aussi. Hein. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y avait ce rassemblement, donc cette manifestation à Washington. Et demain, donc, il y aura un rassemblement, donc ce mercredi 25 à 18h30, il y aura un rassemblement comme il y a tous les mercredis, place de la Concorde, donc à 18h30, et ce sera au métro Concorde. Donc à partir de 18h30, donc c'est la campagne internationale pour la libération de Mumia Abu-Jamal. Ce même jeudi, donc à 18, non, c'est pas ce même jeudi, c'est jeudi carrément, ça sera beaucoup mieux. Il y a un rassemblement donc jeudi à 18h, c'est le 26e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. Et donc il y aura un rassemblement qui se fera devant la caserne des pompiers, donc du 26 rue de Chaligny, donc à Paris. Donc c'est le métro Reuilly Diderot. Donc c'est un hommage aux 500 000 entre guillemets liquidateurs oubliés, aux futures premières victimes de la prochaine catastrophe. Donc il y a une assemblée antinucléaire donc qui se prépare par ailleurs donc le 29 avril donc, de cette année à Montreuil. Et il y aura pour être informé donc de cette assemblée antinucléaire, donc il y a un site, c'est afcn@riseup.net. Donc je répète, afcn@riseup.net. Donc ça, c'est, il y a aussi un contact, c'est le collectif contre l'ordre atomique, contre-l'ordre-atomique@riseup.net. Voilà donc pour ce jeudi 26. Vendredi à 18h30 au CICP, Centre international des cultures populaires, salle verte, il y a une rencontre, donc c'est la Palestine, la Nakba 1948-2012, et c'est le Front du 14 janvier Paris donc, qui vous invite à une soirée culturelle et politique en présence de la poétesse militante palestinienne de gauche Raja Omari, donc de l'association Haïfa Demain, donc qui se trouve à Haïfa en Palestine, et aussi avec la participation du poète tunisien Kamel Bouadjila. Et donc ça sera au Centre international des cultures populaires, donc CICP, donc ça se trouve au 21 Terre rue Voltaire, métro rue des Boulets, ça sera ce vendredi à 18h30. Et donc entrée libre et gratuite. Voilà. Samedi, il y a deux rendez-vous. On va commencer par le premier tu me diras le troisième, parce que j'ai dû rater le troisième. Le camarade aurait peut-être pu nous en parler, qui est notre spécialiste en informatique. Donc c'est un week-end bidouille éducation populaire. C'est sur l'informatique. Non, bon, bah alors d'accord. Donc c'est à 10h30. Donc c'est un week-end pour croiser. Week-end pour croiser les regards et les approches entre les personnes qui bidouillent et qui font de l'éducation populaire pour échanger sur nos pratiques, valeurs et moyens d'action pour comprendre les uns des autres. À nous les mots et les actions et les actes. Alors, il y a Linux, documentation, nouvelles technologies, etc. Et donc, ça se passera à la main d'œuvre. C'est un rue Charles, j'ai la moitié de l'adresse qui est passée.
Saint-Ouen.
Quoi ? Alors, c'est Charles Smith, me dit le camarade. Donc, c'est à Saint-Ouen et c'est métro Porte de Saint-Ouen. Voilà. Voilà.
C'est pour ça que j'y vais.
La thématique est intéressante, mais c'est dommage parce que c'est quand même ça, c'est une.
Alors, il y en a qui viennent causer, ouais. Mais pas dans le micro, donc ça ne va pas le faire.
La thématique est relativement intéressante. L'association, moi, je ne la connais pas. C'est comment, Underwood, c'est ça ?
Alors, c'est Under Construction.
Under Construction. Sinon, main-d'œuvre, c'est un des symboles de la gentrification en banlieue nord. Donc, sauce, verre. Coco, de la nomenclatura, fils de, fille de, etc. etc. Mais bon, enfin, ils surfent sur les thématiques à la mode.
Bon, on passe.
Voilà.
Donc, il y aura une chaîne humaine donc, ce samedi donc, à partir de 11h. Et ça sera donc à l'immeuble Edison. Alors, c'est à Guyancourt. Et donc, c'est à partir de 11h. Donc, c'est une chaîne humaine locale sur
le sortir du nucléaire. Donc, voilà, après, dire, bon, parce que
voilà, tout à fait.
Pareil, donc, c'est SOSDEM.
Voilà, bon, après, vous voyez, vous verrez. Et donc, c'est à 11h. C'est à l'immeuble Edison, 43 boulevard. Je n'ai pas la moitié du truc. Donc, ah, c'est à Guyancourt.
Ah oui,
c'est à Guyancourt. Voilà.
Mais c'est même pas sûr que l'immeuble Edison ce soit d'ailleurs le nom intégral. Faut aller voir sur Démosphère, voilà. Parce que là,
il y a la moitié du qui est passé.
Ouais.
À la trappe, un peu.
Et sinon, à propos des Syriens, il y a deux rendez-vous. C'est donc il y a pour ceux qui ont les moyens. Hein, c'est vrai que c'est un peu cher, mais en même temps, les familles ont besoin de soutien là-bas. Tous les jeudis soirs, donc le restaurant il s'appelle
L'Agathe.
Il
se trouve à métro Bonne Nouvelle.
Voilà, donc c'est boulevard Bonne Nouvelle.
Voilà.
On n'a plus le.
J'ai pas
l'adresse exacte, c'est AGHAT. On trouve ça sur soyaouria.com. C'est des repas, donc tous les jeudis soirs à 20 euros, il y en a 10 qui vont pour aider les familles, payer des médecins sur place, etc. Mmh. Et sinon, tous les samedis après-midi, donc à 14h à Châtelet.
Non, 16h, 16h.
16h, c'est plutôt maintenant, oui, c'est vrai. 16h. C'était 15h un temps, maintenant c'est plutôt 16h. Donc à Châtelet, c'est place Sainte-Opportune, c'est
non,
ça
non, place du Châtelet.
Place
même.
Du Châtelet.
Voilà.
Et donc c'est le rendez-vous, pareil, des opposants. En syrien, parisien.
Voilà, allez les voir parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de Français qui les soutiennent. Apparemment, là, on voit vraiment le travail de désinformation.
Voilà. Quelques gars du NPA, de AL.
Voilà. Mais on n'est vraiment pas beaucoup de Français à les soutenir, donc ça serait bien d'y aller, quoi, d'y aller à nombreux. Et parce que je vois pas beaucoup de camarades aller là-bas, quoi. Voilà. Comme si, je sais pas, la Syrie c'était loin. Voilà.
Non, mais après, il faut dire, on va pas non plus culpabiliser les gens. C'est vrai qu'il y a aussi, il y a ça. Je pense que ça joue effectivement que le fait c'est loin, la désinformation. Il y a aussi souvent le samedi. Enfin, il y a aussi des fois. Mais c'est vrai qu'on voit toujours les mêmes quand même.
Ouais.
Quoi qu'on en dise.
Quoi qu'on en dise, oui.
Bah voilà. Donc, c'est sur ce que cette émission va se terminer. Donc, nous, on vous retrouve la semaine prochaine. De 20h30 à 21h30. Alors ce sera le 1er mai, donc je ne sais pas combien on sera, on verra.
Ouais,
on sera un petit peu homogène.
Moi je serai peut-être pas là parce que serai peut-être faire les prolongations.
Voilà. Donc on vous parlera un petit peu de ce qui s'est passé ce même 1er mai. Puis en attendant, cette émission sera rediffusée donc
ce jeudi
de 7h à 8h.
Pour les lève-tard ou les couche-tard.
Voilà, après tout dépend dans quelle forme on est.
L'inverse, les couche-tard et les lève-tard plutôt. Voilà.
Voilà. Et puis la soirée musicale sur Fréquence Paris Pluriel va s'ouvrir puisque ça va être Dagoué Mbala et c'est Raro qui va prendre le relais pour ouvrir cette soirée musicale sur cette antenne. Et puis on vous salue et puis on vous retrouve la semaine prochaine.
Bonne lutte.
Voilà.
Vous avez assez de cette bande de racailles.
Ça suffit.
On va vous en débarrasser.
Merci.
La crise n'est pas finie.
Et on peut faire quelque chose pour que ce soit plus gay.
Webdo sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.
Et on peut faire quelque chose pour que ce soit plus gay.
Vous avez assez de cette bande de racailles.
Ça suffit.
On va vous en débarrasser.
Merci.
L'avenir main dans la main. Offrons-nous un meilleur lendemain.
Il faut s'unir.
C'est quoi encore ces conneries?
Dans l'atmosphère, comme une pile d'étoiles filantes, comme un œuf dans un micro-ondes, nous allons changer le monde.
C'est quoi encore ces conneries?
Au pays des éoliennes, on a besoin de vent. Au pays des barrages, on a besoin de l'eau.
Au pays du pétrole,
on a besoin d'argent.
Et moi dans ma centrale,
le lien, là, mais...
j'ai tout ce qu'il me faut.
Petit bonhomme, ce soir tu dormiras. C'est ma centrale qui s'occupe.
Et on peut faire quelque chose pour que ce soit plus gai.
La crise n'est pas finie.
Et on peut faire quelque chose pour que ce soit plus gai.
Webdo sur fréquence paritarielle 106.3.
Vous avez assez de cette bande de racailles.
Ça suffit.
On va vous en débarrasser.
Merci.